Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipe est sauvage. 2 heures de bonne humeur informative pour vous, d'un sanglant pugilat pour eux. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 se tirent la bourre au service de votre culture. J'ai leur but, faire en sorte que plus jamais vous ne soyez pris à défaut au cours d'une conversation dans un dîner. Vous savez, ce moment où vous savez que vous ne savez pas de quoi on parle, mais où pour ne pas perdre la face, vous voulez faire genre, vous comprenez quand même. Ce qui débouche souvent sur une phrase du style...
C'est ce que je n'arrivais pas à expliquer, mais que je comprenais parfaitement.
Bonjour Eva Rock.
Mais alors,
aussi
qu'est-ce qu'il y a
qu'hier, Eva.
Je suis en très grande forme.
Vous avez reconnecté les neurones?
Et j'ai reconnecté... Bon, bah alors ça, le jour où ça arrivera, vous serez
oui,
le premier prévenu.
Vous
me hein.
Signe.
Oui, c'est pas encore demain.
Tout à l'heure, vous nous guiderez dans la jungle des programmes télé. Mais d'abord, accueillons notre invité arbitre du jour, dont la voix comptera triple en fin d'émission. Et quelle voix! Il se dévoile comme jamais dans son dernier spectacle à l'Européen et dans la série des révélations les moins surprenantes de l'histoire. Il y a bien sûr en deux...
Luc, je suis ton père.
Et puis, il y a désormais en un...
Avant de commencer, je dois vous dire quelque chose, mais j'espère que vous n'allez pas me juger. Voilà, je suis gay.
Bonjour, Jared.
Bonjour. J'adore l'idée.
J'arrive depuis quelques jours, vous êtes au théâtre L'Européen à Paris pour votre spectacle Titre, qui a déjà cartonné en tournée de janvier à juin dernier. Un spectacle où vous mêlez visiblement humour et magie, puisqu'on m'a raconté que vous avez réussi à faire chanter Eva Rock, c'est vrai ça?
Elle a chanté, oui. Elle a dansé, elle a fini sur la pole dance. Ça a envoyé un message très fort pour dire qu'Europe 1 aujourd'hui, c'est dans l'air du temps.
Au-delà de la blague, on dit que ce spectacle est un spectacle interactif où les gens chantent vraiment, on va en parler. Hein.
Ah oui, je vous confirme, on a beaucoup chanté.
Le public paye de sa personne, si vous
voulez. Il vaut mieux pas arriver en retard, je peux vous dire.
Ah oui, il paraît qu'ils se font engueuler ceux qui arrivent en retard.
Attends, c'est un cours. Hein.
On va évidemment parler de ce spectacle singulier, mais d'abord, je me dois de vous présenter les forces en présence. À ma gauche, le bel âtre du service culture d'Europe 1. Il est le monsieur littérature de la rédaction, mais pour glaner des points, il accepte aussi volontiers d'être le toy boy de notre invité. Je vous présente Nicolas Caro.
Bonjour.
C'est une bonne nouvelle.
Nicolas, vous connaissez Jarry?
J'étais allé une fois, c'est vraiment décadent.
Hein. Ah oui, vous connaissez Jarry, effectivement.
Je le connaissais jusqu'à maintenant parce que je découvre qu'il est gay, donc.
Vous apprenez des choses. Nicolas, avec quel sujet allez-vous tenter de rafler les 3 points aujourd'hui?
Je vais vous parler des chevaliers du zodiaque.
Seront toujours à l'attaque.
Absolument.
En chantant cette chanson bien haut, la chanson des héros. Ah, mais ça, j'ai hâte.
J'adore
c'est
l'idée.
C'est nos années, Jarry.
Évidemment,
c'est nos jeunes années. Toute
Force
notre
Lyon, quoi.
Force Lyon. Moi, c'était Pégase. À vos côtés, Nicolas. J'espère que je peux compter sur votre fair play malgré le fait qu'elle soit votre concurrente, Nicolas. Voici une femme épatante.
Cynique, raciste, homophobe.
Mais pas du tout, pas du tout. Soyez fair play. Anne Le Gall n'est qu'amour. Bonjour, Anne.
Bonjour, Mathieu. Bonjour, Anne.
Vous êtes spécialiste environnement. Vous avez triomphé hier. Vous n'êtes plus qu'à quelques points de la première place du championnat européen. Avec quel sujet allez-vous vous y propulser?
Je vais tenter d'exister dans les yeux de Jarry, qui se trémousse à l'idée qu'on parle des chevaliers du zodiaque. Donc je vais vous parler moi d'un projet complètement fou d'un botaniste français qui s'appelle Francis Allais qui voudrait recréer en Europe des forêts primaires. Alors forêts primaires, ce sont des forêts dans lesquelles l'homme ne va pas mettre les pieds pendant 1000 ans.
C'est Nicolas Caron qui simule un ronflement. C'est absolument dégueulasse, Nicolas.
C'est pas juste de faire
ça. Vous marquez pas des points aux yeux de Jarry qui a un grand cœur, vous savez. Voilà pour le programme.
Je suis sincère, moi.
L'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc l'humoriste Jarry qui nous accompagne cet après-midi. Un Jarry que je sens très excité par ce programme. Les arbres ou les chevaliers du zodiaque déjà comme ça.
Alors si on peut faire une balade dans les arbres avec les chevaliers du zodiaque,
c'est encore mieux.
C'est génial.
Moi aussi j'aimerais bien ça. Alors Jarry, depuis quelques jours, vous êtes au théâtre L'Européen pour votre spectacle qui s'appelle Titre. Alors je vous raconte comment ça s'est passé quand on a préparé cette émission. J'ai cru que dans le dossier, ils avaient oublié, ils n'avaient pas encore le nom du spectacle et ils m'avaient mis Titre. Donc j'attendais, j'avais mis en jaune pour pouvoir tout remplacer au dernier moment. En fait, le spectacle s'appelle vraiment Titre.
Et oui.
Pourquoi?
Et parce que chaque soir, le titre du spectacle peut être différent en fonction de ce qui s'y passe. Et aussi Titre parce qu'il faut tout le temps donner un titre aux choses, comme il faut tout le temps mettre les gens dans des cases. Et j'avais pas envie de nommer, j'avais pas envie de... Voilà. J'avais envie de dire que chacun choisisse son titre. Et puis c'est un peu comme juste le blanc, quoi. C'est juste.
Alors, sans dévoiler exactement tout ce qui se passe dans le spectacle, qui n'est d'ailleurs jamais le même chaque soir par définition.
Non, je ne joue pas tout. C'est pas moi qui joue tous les soirs.
C'est pas vous tous les soirs. Parfois, il y a votre doublure, évidemment. C'est pas mal aussi. Il est bon aussi. Hein.
Il est très, très fort.
Il est bon. Jarou. Hein. Il est pas mal, Jarou. Non, mais c'est un échange avec le public. C'est incroyable ce degré d'improvisation. Par exemple, moi, je ne fais pas de one-man show, évidemment, mais disons que je suis plus dans l'écriture. Tout a besoin d'être écrit. Vous, on a le sentiment que vous êtes vraiment un roi de l'impro.
métro, vous pouvez partir chaque soir dans un délire complètement différent.
Mais je crois que c'est important parce que comme les gens chaque soir sont différents et que moi mon état émotionnel est différent, il faut aussi que je m'adapte aux gens qui viennent. C'est comme quand vous recevez des gens qui viennent manger chez vous. Vous adaptez
un
quoi.
Un plat différent.
Voilà, au dernier moment, quelqu'un peut vous dire je suis sans gluten. Et là, vous vous dites ah non, j'avais préparé des pâtés en croûte. Et là, vous partez sur voilà, une petite salade. Et ben, j'ai envie de m'adapter avec les gens. Et puis, parce que l'ossature du spectacle est assez claire pour moi, donc je peux divaguer, revenir.
Comment oui, Eva Rock.
Pardon, est-ce qu'il y a une grande différence de timing entre un spectacle et un autre? Parce que nous, le jour où on est venu vous voir, je pense qu'il y avait 10 minutes, voire un quart d'heure d'intro où on sentait que vous étiez complètement en impro. Et je me suis dit, mes spectacles vont durer 2 heures au lieu de 1 heure et demie. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différence?
En fait, non, parce que j'ai une horloge qui est en face de moi et je dois faire 1h20 précise. Donc, du
vous
coup,
suivez ça?
Eh oui, sinon le monsieur du théâtre, il vient avec un taser et il règle mon compte.
Vous dites, la scène, c'est le seul endroit où personne ne peut intervenir pour me dire ça, tu ne peux pas le faire. Est-ce que néanmoins, vous vous auto-censurez, vous vous fixez des limites dans l'humour? On parle beaucoup de ça aujourd'hui avec les humoristes. Est-ce qu'il y a des limites sur les blagues qu'on peut faire ou les domaines sur lesquels on ne va pas?
Des fois, je m'interdis avant de monter sur scène, de, par exemple, en fonction de l'actualité du jour, d'y aller. Mais souvent, quand je m'interdis, c'est la première chose que ma bouche dit. Et quand elle l'a dit, je fais ah oui, ah bah je l'ai dit. Ah bah dis
c'est
donc.
Sorti.
Voilà. Au revoir.
Il triomphe à l'Européen. Jarry est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, mon cher Jarry, on a tous la nostalgie des années 80. On a tous regardé en cachette les Chevaliers du Zodiaque dans la chambre de mamie. Vous l'entendez encore vous dire
« Poussin, c'est très vilain de jouer avec ton petit oiseau quand mamie est dans la chambre. »
Ouais, c'est vrai qu'il était bien gaulé, Pégase. Bref, les Chevaliers du Zodiaque, nouvelle star du développement personnel. Pourquoi, comment, pour qui? Nicolas Carreau nous explique, à tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
On peut bien noter les chauffeurs de VTC, les livreurs de bibimbap. Alors pourquoi ne pas noter les journalistes?
Ah merde!
Eh oui, bienvenue dans la 38e journée de l'équipée sauvage, le premier championnat journalistique du monde. 4 journalistes s'affrontent au service de votre culture G et sous l'égide de notre invité d'honneur aujourd'hui, l'humoriste Jarry, que vous pouvez applaudir à l'Européen, puis en tournée dans toute la France à partir du 18 janvier. On continue d'en parler ensemble, mais l'heure est venue d'écouter notre premier concurrent. Et vous le savez, Jarry, une chronique se prépare comme un plan Grindr. Nicolas Carreau, je vous laisse vous échauffer la bouche. Magnifique, je crois que vous êtes prêts à nous parler.
C'était le bruit de la mer.
Oui, on l'a bien reconnu. Vous êtes prêts à nous parler des Chevaliers du Zodiaque?
Et oui, parce que j'ai reçu ce livre à la rédaction, Agir et penser comme un Chevalier du Zodiaque, signé Alexandre Goub. C'est aux éditions de L'Opportun, qui est une chouette maison d'édition, oui, qui a toujours de très bonnes idées. Et là, c'est une sorte de livre de développement personnel qui ne se prend pas du tout au sérieux et qui se base donc sur l'exemple des Chevaliers du Zodiaque, exemple au sens d'exemplaire. J'ai bien conscience que tout le monde ne connaît pas les Chevaliers du Zodiaque. C'est un dessin animé donc des années 80, dessin animé japonais. C'était un manga avant et il a été diffusé pendant le Club Dorothée. Le générique en français, c'était ça.
Les quatre coins de l'univers ont triomphé le monde.
Mais comment on l'écoute pas en entier?
Je me sens très, 10 très minutes de chronique.
Comment
je
ça? Parce que vous n'avez pas connu ça, Eva, c'est ça?
C'est pas
la génération. J'arrive,
vous avez connu. Ça donne envie de faire un porté avec Eva.
Ça donne envie de vous voir faire un porté avec Eva.
C'est l'histoire de 5 amis, donc Seiya, Shun, Shiryu, Yoga et Iki.
Shiryu, c'est fabuleux.
Ils sont tous chevaliers du zodiaque. C'est-à-dire qu'après une initiation très difficile, ils ont réussi à obtenir une armure de bronze un peu magique qui correspond à une constellation. Donc Seiya est devenu le chevalier Pégase, le cheval ailé, Shun a obtenu l'armure d'Andromède, Shiryu le dragon, etc. Leur mission, c'est de protéger la déesse Athéna réincarnée sous le nom de Saori. Ils la protègent contre différents types d'ennemis, mais souvent contre d'autres chevaliers au service d'autres dieux. Le problème, c'est qu'évidemment, ils tombent toujours sur des chevaliers beaucoup plus puissants que
les chevaliers d'or.
Beaucoup de courage, et absolument, entre autres, d'abnégation ou d'Asgard, de sens du devoir et d'esprit d'équipe pour y parvenir. C'est ça, les chevaliers du zodiaque. Il y a eu des polémiques à l'époque sur la violence du dessin animé, oui, mais en fait, ce que les gens ne voyaient pas, c'est que les chevaliers ont participé, à mon avis, à créer une génération de gamins prêts à tout pour faire triompher la justice, pour se dépasser, pour s'améliorer. Moi, par exemple, à 7-8 ans, j'étais le chevalier Pégase. C'est comme en littérature, on s'identifie au héros et ça vous aide à vivre. Et donc, ce livre reprend tous les grands thèmes du dessin animé pour en faire une sorte de guide de développement personnel. Il reprend toutes les aventures des chevaliers appliquées à la vie moderne. Il y a d'abord un chapitre sur l'entraînement, comment bien démarrer, comment développer sa cosmo-énergie, l'énergie interne, le travail en équipe, la capacité à garder son calme, savoir compter sur ses amis. Comme dans cet extrait, les chevaliers sont à terre, à moitié morts, mais Seyar va se relever grâce à l'esprit d'Athéna qui l'encourage et à ses amis qui lui donnent leur énergie.
Allez, relève-toi, trouve la force de te relever.
C'est incroyable, comment fait-il pour se relever alors que la mort lui tend les bras ?
Seyar, je suis avec toi.
Moi aussi, je suis là. Vas-y, courage !
Franchement, c'était quand même autre chose que la patte patrouille, hein, nos dessins animés à l'époque quand même.
Et oui, il finit par triompher. Tout le manga est teinté de philosophie antique, le livre aussi. Il y a des citations des chevaliers authentiques, comme celle-ci de Yoga, on dirait du Confucius. Penser qu'un rêve est une chose irréalisable, c'est être tel un vieillard qui a renoncé à vivre. Yoga, chevalier du cygne. Et si vous suivez les enseignements du livre, donc des chevaliers, à la fin vous devenez chevalier d'or, c'est-à-dire un sage.
On reçoit l'armure ?
Ah bah ça, c'est pas marqué dans le livre, mais oui, vous l'aurez symboliquement en tout cas, Mathieu.
Est-ce que vous aviez conscience, Jarry, que les chevaliers du Zodiac vous avaient aidé à devenir une meilleure personne ?
Mais complètement, je le vois dans ma pratique du sport tous les jours, quand je vais faire du bois. J'ai vraiment j'ai une maîtrise de la machette. Non, c'est très très drôle comment vous racontez ça. Ça donne envie, je trouve.
Ah, moi, puis, je le veux, ce livre.
C'est vrai, et puis on comprend physiquement que vous avez traversé ces chevaliers du Zodiac.
C'est vrai, en plus.
Non, mais c'est super. Et en plus, les chevaliers du Zodiac, ça s'inspire aussi beaucoup de la mythologie et des grandes figures de la mythologie, ce qui permet aujourd'hui d'être dans la psychologie, du coup, dans ce bien-être. Aujourd'hui, on a besoin de coach pour tout, quoi. Tu veux faire de la cuisine ? Il y a un coach cuisine.
Non, c'est très sympathique. Et vous me l'offrez ou vous l'offrez, Jarry ? Qui vous choisissez ?
Alors moi,
pour Jarry, parce que j'ai un double exemplaire, je vous le donnerai plus tard, Mathieu.
Bien joué. Il est fort, ce Nicolas Caro. Lui, il cartonne à l'Européen avec son spectacle au titre énigmatique. Titre, Jarry passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, et si on laissait la nature respirer ? C'est l'idée folle d'un botaniste qui veut recréer une forêt primaire dont l'accès serait interdit à l'homme pendant 10 siècles. En même temps, la nature regagne toujours très vite ses droits. Et Varrock, qui avait un peu tardé à prendre rendez-vous chez l'esthéticienne la dernière fois, on sait quelque chose.
C'est un espace de ce qu'on appelle de non-gestion, c'est-à-dire que la nature fait ce qu'elle veut, il n'y a aucune intervention de l'homme. La flore est impressionnante et la faune aussi est abondante. Des rapaces, des lièvres, oui. Des belettes, des fouines, des reptiles.
Ah, fascinante nature ! On en parle juste après un bon vieux Queen. I want to break free sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures pour muscler vos zygomatiques tout en gainant vos cerveaux, en présence d'un invité virevoltant aujourd'hui, l'humoriste Jarry, actuellement sur la scène de l'Européen à Paris et bientôt en tournée près de chez vous. Jarry, qui profitait de la pub pour nous dire que pour l'instant, il trouvait l'émission vraiment chouette.
Bon, c'est super parce que tout le monde a des bras, c'est un bon début.
C'est un des plus beaux compliments qu'on nous a fait jusqu'à présent cette saison. On vous sent presque aussi enthousiaste qu'Éric Emmanuel Schmitt, qui pourtant, déjà de son propre aveu, était
chaud comme une baraque à frites. Mais vraiment.
Alors, Jarry, vous vous sentez bien sur Europe 1 ?
Je me sens très très bien, j'adore Europe 1, je suis très proche d'Europe 1.
C'était la bonne réponse. Vous triomphez, on peut utiliser le mot triompher vu que vous avez fait sale comble de janvier à juin en tournée. Vous triomphez à l'Européen à Paris. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui ne connaissent pas l'univers Jarry ?
Ah oui, alors souvent les gens, quand vous leur demandez de quoi tu as envie, ils te disent j'ai envie d'un voyage, d'une plage, d'une mer chaude. Ben voilà, c'est exactement ce qui se passe à l'Européen. Donc j'ai envie de te dire ne te prends pas la tête avec un décalage horaire.
Voilà. Viens.
Viens en slip d'ailleurs si tu veux, on s'occupe du reste.
Alors votre spectacle titre est un hommage aux femmes, aux mamans, spécialement à votre maman. Enfin quand je dis un hommage, il faut peut-être que je tempère un peu l'expression car vous décrivez votre mère, vous dites c'est un mélange entre Baïté et Moundir.
Oui.
Visuellement je...
Ça donne faim. Ça. Parce que je crois qu'on peut rire de tout et du coup il fallait que je me moque de la personne que j'aime le plus au monde pour dire aux gens, voilà, regardez moi-même, je dis des horreurs sur ma mère. Donc voilà, détendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, on se pose toujours la question de quoi on peut rire. Est-ce qu'on peut rire de tout ? Ah, voilà, ça reste de l'humour. Et l'humour, le but, c'est de faire rire. Alors des fois, ça fait grincer. C'est pas grave.
Vous êtes resté très proche de votre maman encore aujourd'hui ?
Bah oui, bah de toute façon, elle me lâche pas.
Hein.
même si j'essaie de prendre mes distances. Non, puis quand tu vois ma mère, tu as envie de lui faire plaisir.
Elle est venue vous voir au spectacle, là, déjà ?
Ah oui, alors je l'avais prévenue. Oui, je l'avais prévenue. Je lui ai dit, maman, je dis des choses un peu horribles sur toi. Elle a débarqué dans la loge en me disant, c'est pas horrible, c'est carrément inadmissible. Mais c'est une belle déclaration. Oui, j'avais envie de faire une déclaration à toutes ces femmes. Parce que je trouve qu'en humour, on rigole souvent sur les femmes. Moi, j'avais envie de leur dire qu'on peut rigoler aussi sur les hommes.
On vous voit aussi danser sur scène. La danse, j'ai découvert que c'était votre première vocation.
Oui, Oui, ben oui, j'étais dans les vignes et pendant que mes frères faisaient les vendanges, moi je faisais des étirements sur les...
Ça contrastait.
Voilà, et ce qui m'a valu le fait que personne n'ait dit que j'étais de la famille. Hein. On disait tout le temps, c'est le stagiaire pour que les autres personnes ne soient pas choquées. Oui, j'ai toujours eu envie de danser depuis que je suis tout petit.
Mais ça, vous en avez fait en professionnel parce que
oui,
vous aviez
oui,
intégré une compagnie de hip-hop, hein,
tout
c'est
à
ça,
fait,
hein.
J'ai eu une compagnie qui s'appelait Exprime, on a fait les championnats du monde. Et,
vous
j'ai...
avez gagné les championnats du monde ?
Alors on n'a pas gagné parce
vous
que...
Vous avez fini combien ?
Bon, on était dans les trois premiers.
Ah ouais ?
Et oui.
Ah non, gros niveau. Quand même.
Ouais. Donc j'ai dansé pop, boogaloo, smurf et lock pour ceux qui sont spécialistes.
Mais oui, qu'est-ce que ça vous a apporté la danse dans votre vie au quotidien ?
En fait, j'étais très timide et j'arrivais pas à nommer les choses. Je parlais très très peu, tellement peu que les profs avaient dit à ma mère, faudrait peut-être lui faire faire un test de QI parce qu'on est un peu inquiet. Et en fait, j'avais juste besoin de m'exprimer corporellement. Je passais des heures à travailler mon corps. Bon, aujourd'hui, il n'en reste aucune trace. lui est parti d'ailleurs. Mais oui, c'était vraiment une manière de m'exprimer.
Et la danse, ça vous a peut-être apporté la rigueur ? J'aimerais qu'on parle de ça. Parce
oui.
que les humoristes, souvent, on pense que c'est une nature comique et qu'on est drôle facilement comme ça tout le temps. Vous dites qu'il y a énormément de travail derrière un spectacle. C'est énormément de travail.
Non, c'est énormément
et vous êtes
de
quelqu'un
travail.
De très rigoureux, en fait, derrière le côté fantaisiste comme ça.
Oui, oui, je suis beaucoup trop rigoureux même. Non, c'est vraiment au millimètre. Et l'humour ne laisse aucune chance à l'à peu près. Il faut vraiment, vraiment travailler les choses. Et puis aussi savoir ce qu'on a envie de défendre et comment le défendre pour que ce que l'on a envie de dire soit perçu par tout le monde de la même manière.
Il est à l'Européen, à Paris, jusqu'au 5 janvier. Oui, Jarry passe l'après-midi sur Europe 1.
Youpi
Europe 1.
Youplala. À suivre, alors que Jarry passe un excellent moment et qu'il est épaté par le
génial.
Niveau de nos journalistes.
Putain, j'ai l'impression d'être devant une classe de redoublants.
Notre spécialiste environnement se prépare à entrer en piste pour nous parler du projet fou d'un botaniste français qui veut recréer une vraie forêt, c'est-à-dire une forêt où l'homme ne pénétrerait jamais. Pourquoi vous regardez Eva comme ça ? À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Comme moi, vous aimez les films indépendants cambodgiens où dans l'immensité d'une nature inviolée, la seule action se résume au cri déchirant d'un berger khmer qui a perdu une brebis. Bienvenue dans l'équipée sauvage. Deux heures pour comprendre le monde dans sa complexité sans jamais oublier d'en rire. En compagnie cet après-midi d'un invité survolté, l'humoriste Jarry, actuellement à l'Européen avec son spectacle Titre. Vous arrivez sur scène en chantant, vous débrouillez d'ailleurs très bien. Eva, vous pouvez dire que Jarry chante.
J'étais bluffée. Non mais j'étais franchement bluffée par le niveau de chant.
Bah ouais, mais
j'ai
Maria
même cru
Carré.
Que c'était un playback au début.
C'est vrai ?
Ah bah oui.
Non mais il y a du Maria Carré en moi, il y a des grandes chanteuses quoi qui sont venues.
Alors justement, on recevait la semaine dernière Claudia Tagbo ici pour Ghost le musical. Ça vous dirait d'intégrer une troupe de comédie musicale vu que vous avez tous les talents, vous dansez, vous chantez ?
Je sais pas.
Ça fait pas partie de vos rêves de gosse ?
Bah non, pas du tout.
Ah pas du tout.
Non mais j'aime pas trop être déguisée en costume et tout. Parce qu'en plus, on va me donner un rôle super chelou, tu vois. Je vais être le comptable gay qui se fait violer par le loup au bout de 10 minutes de spectacle.
Ça, c'est un bon pitch, ça. Hein, je vais peut-être l'écrire, tiens, ça. Vous avez dit aussi, je rêvais de devenir comédien dramatique, de jouer des grands classiques.
Mais oui.
Mais au lieu de faire pleurer, je faisais rire.
Mais oui, mais c'est
horrible.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Je jouais le mythe de Persée sur l'histoire d'Athéna qui a eu Persée, etc. C'était une petite
oui.
parallèle.
Oui, non,
mais je vois que
t'en
as absolument rien à foutre.
Ah, si, j'ai fait la carte. Vous pourrez vous intéresser quand il essaie de reconnecter avec votre chronique.
Voilà, j'essaie de trouver du lien. Et du coup, mon père meurt à la fin dans mes bras. Et là, toute la salle mais hurlait de rire. Et le metteur en scène est venu me voir en me disant « Bon, Jarry, c'est censé faire pleurer. » Je fais « Mais moi, je suis premier degré, vraiment. Je crois vraiment qu'on père est mort. » Et voilà, je me suis fait virer.
Et du coup, ça vous a ouvert les portes de l'humour.
Bah oui,
vous
c'est horrible. Mais même quand j'enseignais, les élèves, ils rigolaient. Ils me disaient tout le temps « Mais monsieur, vous n'êtes pas sérieux. » Je disais « Mais si, je suis sérieux. »
Je suis hyper sérieux. On continue de parler de votre dernier spectacle, mais l'heure est venue d'écouter notre deuxième journaliste en compétition aujourd'hui. Il s'agit d'Anne Le Gall. Oui, Jarry.
Excusez-moi, madame, quand vous rigolez, vous faites bouger vos seins.
Oui, essayez de ne plus rigoler, Anne, pour ne pas troubler l'invité et ne pas fausser son jugement. Anne, on vous écoute. Un botaniste veut recréer des forêts vierges. Oui, mais ne bougez pas, parce que là,
attends,
ça continue.
Vous rigolez, là.
Vous rigolez, donc
mais
là,
oui.
Il y a le... Voilà, ça ne va plus. Un botaniste veut recréer des forêts vierges en
là,
Europe.
Déjà, ils sont tombés de 20 cm. Hein.
Oui, mais ça, c'est un autre problème. Bon, alors, un botaniste... Pardon.
Comment débarrer là-dessus ?
Anne, reconcentrons-nous. Ne bougeons plus, surtout. Essayons d'être statiques.
Allez, la nature.
Restons statiques. La nature avant tout. fascinante nature. Un botaniste veut recréer des forêts vierges en Europe et faire en sorte que les hommes n'y mettent plus les pieds pendant 1000 ans. J'ai dit 10 000 ans tout à l'heure, j'ai un peu survendu le truc. 1000 ans, c'est déjà pas mal.
Ans, c'est
mais
beaucoup.
Est-ce bien raisonnable?
En tout cas, a priori, oui, parce que l'idée vient d'un botaniste réputé, Francis Allais, spécialiste des forêts tropicales, 81 ans, voyageur infatigable, et il s'inquiète aujourd'hui de la disparition des forêts primaires. Des forêts primaires, il en reste, enfin, il y a un tiers des forêts en Europe, dans le monde aujourd'hui, qui sont des forêts primaires, et elles disparaissent très rapidement. Donc, forêts primaires, ce sont les forêts intactes de toute activité humaine.
Oui, c'est pas Boulogne, quoi. C'est pas le bois de Boulogne.
Par exemple. C'est
certains qui se livrent à des activités assez primaires dans le bois de Boulogne. Ça n'en fait pas pour autant un bois primaire.
Donc, ces forêts primaires disparaissent à la vitesse de 15 millions d'hectares chaque année. C'est la superficie de l'Angleterre. Et ça, évidemment, ça chagrine Francis Allais.
Je voudrais montrer aux gens que la biodiversité, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et qu'on est encore très très loin d'en avoir fait l'inventaire. Et comme les forêts tropicales disparaissent très vite, on a des raisons de penser que tout ça va disparaître avant d'être réellement inventorié. Je trouve ça monstrueux. Mais enfin, je ne sais pas quoi faire.
Voilà, témoignage.
Attendez, à l'instant, un SMS de Jair Bolsonaro. Qui est ce con?
Voilà, témoignage à retrouver sur le site de la Fondation Cartier qui consacre en ce moment une grande exposition aux arbres. Alors en fait, il sait ce qu'il faudrait faire, Francis Allais. Il faudrait, au-delà de la protection des forêts primaires au Brésil, en Amazonie, en Indonésie, au-delà de la seule forêt primaire qui reste encore en Europe, la forêt de Białowieża en Pologne, eh bien il faudrait, selon Francis Allais, recréer des corridors de forêts primaires dans l'Union européenne, donc regrouper des forêts et interdire à l'homme d'y accéder, en faire en fait une sorte de sanctuaire. Et dans ces zones-là, il ne faudrait donc plus mettre les pieds pendant 1000 ans.
Et pourquoi cette date de 1000 ans?
1000 ans, c'est le temps qu'il faut pour qu'une forêt secondaire redevienne primaire, donc avec sa biodiversité au maximum. Puisqu'en fait, dans la nature, pour que la biodiversité regagne ses droits, il faut vraiment des cycles très longs. Donc c'est 1000 ans en zone tempérée, c'est 700 ans en zone tropicale.
Je vais me faire l'avocat du diable, mais pourquoi c'est si important d'avoir des forêts primaires et des forêts avec des arbres centenaires? C'est déjà pas mal, non?
Alors c'est déjà pas mal. Une forêt comme la forêt de Troncet dans l'Allier, où il y a des arbres qui ont 300 ans, c'est déjà pas mal. Mais une forêt primaire contient 5 fois plus de végétation qu'une forêt secondaire. Et oui. Et puis, dans une forêt primaire avec des arbres centenaires couverts de mousse.
Non, mais je suis complètement d'accord avec
vous. C'est vrai, j'arrive.
Non, je suis complètement d'accord. Je suis parrain d'une association qui s'appelle Nature Dive, où on protège les fonds marins et la biodiversité maritime. Et c'est très, très important. Il faut savoir que des choses qui nous semblent infiniment petites sont en voie de disparition et ces choses ne pourront jamais être de nouveau d'actualité. Donc c'est très très important et je crois que les gens ne se rendent pas compte.
Pour dire à quel point Jarry est sincère, je crois que même que vous aviez prévu, si jamais tout devait s'arrêter, je ne vous le souhaite pas, vous aimeriez ouvrir un club de plongée.
Mais oui, mais comment le savez-vous?
Je ne sais pas, je l'ai
mais
lu.
Vous
part.
Êtes dans ma tête. Oh,
probablement.
Je suis très concerné. On est en train de mettre en place dans le sud de la France des espaces naturels parce qu'il n'y a plus la Posidonie, par exemple, qui permet aux poissons de se nourrir et de se reproduire. Et voilà, est en train de disparaître. Il y a des nacres, toutes les nacres aujourd'hui en Europe du Sud ont disparu à cause d'une bactérie depuis un an. Donc la situation est plus que préoccupante. C'est important. Donc moi, j'encourage ce monsieur. Alors 81 ans, on n'est pas sûr qu'il voit la fin du projet. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très très important.
Et c'est très important parce que des vieux arbres, en fait, une vieille forêt, ça permet pourquoi beaucoup de biodiversité, parce qu'il y a les mousses, parce qu'il y a la taille des arbres qui permet de stocker du carbone.
Ne faites pas ce geste.
Il y a
vraiment un geste là. Ils nous suivent sur europe1.fr.
Il y a une superficie de feuillage qui fait que le CO2 est stocké de façon très très efficace. Et puis même sous terre, une forêt primaire a un rôle remarquable par son réseau racinaire qui permet non seulement de retenir de l'eau, mais aussi d'établir une communication entre les arbres. Les arbres communiquent par les racines avec un réseau très très sophistiqué de racines, en lien aussi avec les champignons parfois. Et ça permet de s'adapter à l'environnement, aux maladies, aux parasites et à la sécheresse.
Et ça régule les températures. Il faut savoir qu'une forêt, en cas de canicule, on peut gagner jusqu'à 8 degrés.
C'était la chronique environnement d'Anne Le Gall et Jarry, vraiment à égalité d'informations. Information fournie. Votre sujet aura-t-il piqué la curiosité de notre invité? Réponse juste avant 18h.
Europe 1.
À suivre, c'est Claire, notre invité à le cuir bien tanné. Il a réussi à faire carrière après avoir été chroniqueur chez Alessandra Sublet, ce qui normalement vous flingue, CF moi. Jarry est un battant, mais le sera-t-il suffisamment pour sortir indemne de l'épreuve qui l'attend maintenant? Jarry, préparez-vous, car vous allez affronter Eva Rock sur un quiz. Et je peux vous dire qu'Eva Rock, c'est une femme très brillante.
Ça se voit pas.
Au premier abord, non, mais au deuxième, bon, parfois non plus, mais sur un malentendu, si.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, deux heures d'allégresse informative pour rire et découvrir en compagnie d'un invité d'honneur qu'on découvre parfois lui aussi sous un jour nouveau. Car autant certaines stars sont pudiques et avares d'anecdotes, autant certains, comme Pierre-François Martin Laval, n'hésitent pas à lever un coin du voile de leur intimité.
La première fois que j'ai rencontré Gérard Depardieu, quand je suis allé chez lui, vous savez, c'était comme un rêve. Il m'accueille en slip.
Rêve ou cauchemar, on n'est pas égaux devant ce genre de vision. Vous, Jarry, vous n'avez pas encore tourné avec Depardieu.
Non, 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 mais je le connais depuis que je suis petit parce qu'il avait ses vignes pas très loin de chez moi, de ma famille, en Anjou. Donc c'est quelqu'un que j'ai croisé souvent.
Ah, c'est marrant, vous l'avez croisé avant d'être une star, et depuis que vous avez ce métier-là,
non,
depuis que vous avez atteint, disons, ce degré de notoriété, vous n'avez jamais recroisé son chemin. Vous n'aimeriez pas tourner avec lui, ça serait marrant.
Oui.
On lance un appel.
Évidemment.
On lance un appel.
Évidemment. J'aimerais tourner tout court, en fait.
Jarry, ce n'est pas la notoriété qui vous intéressait. Pour vous, le théâtre, c'était un moyen de vous exprimer déjà dans un premier temps, oui. De vous découvrir vous-même en fait.
Oui, complètement. Oui, parce que j'ai découvert des choses de moi que je ne connaissais pas. Et parce que c'est un espace tellement libre, c'est tellement bon d'être libre. Vous voyez ce que je veux dire ?
Avant, ça vous manquait. C'est-à-dire, il n'y a que via la scène. Comment, si, admettons,
parce que partout où on va, on a un responsable, un patron, ouais. Ou des gens qui vous disent ça, c'est pas possible.
Bah, il y a peut-être un metteur en scène qui peut vous dire ça, c'est pas
non,
possible.
Non, bah, c'est moi-même.
Vous êtes malin. Hein.
J'en ai eu un, mais il a disparu d'ailleurs. On ne sait pas où il est. Alors, mais oui, cette liberté, elle est importante, plus que jamais.
Regardez-la, Eva Rock brûle littéralement d'envie d'en découdre, c'est l'heure du quiz. Aujourd'hui les amis, quiz musical. Sur scène, Jarry, il vous arrive de pousser des cris étranges d'enthousiasme. Et dans votre dernier spectacle, on l'a dit, vous chantez, vous faites chanter votre public. Du coup, on va vous passer des chansons, un mot sera masqué par un cri. À vous de retrouver ce mot.
Là, je suis nulle.
Vous êtes nulle, mais vous allez voir, c'est facile.
Ouais.
C'est parti, Jarry, on joue avec Daniel Balavoine.
Ouais, je connais tout de Daniel Balavoine.
La vie ne m'apprend rien.
C'est rapide. Médaille.
Il est plus rapide que son cri, la réponse. Mais oui, bravo Jarry, qui marque un point.
Ouais.
Eva Rock, attention.
Il y a personne qui applaudit quand j'ai un point. En fait.
Ouais. J'applaudis. Il faut venir le vendredi, on est en public. Eva Rock, on joue avec Jean-Jacques Goldman.
Oui.
Changer la vie.
Croyait inutile la nuit des autres hommes. Il pleurait sur son
saxophone.
Ouh, ça va beaucoup me servir comme son. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. En revanche, ça, c'est un son qui isolé.
En tout cas, il y avait du plaisir.
Pour être détourné. J'ai envie
oui.
de voir ton saxophone. Voyons voir la réponse.
Écoutons plutôt. Saxophone.
Saxophone, bonne réponse, Eva Rock. Oh, que ce quiz est dur. Jarry, c'est au tour de Julien Clerc. Ah. Femme, je vous aime.
Quelquefois. Si drôle, sur un coin.
Ah bah si, mais moi je le
sur
sais.
Un coin. Alors, sur un coin
de table.
Ça, la carrière de Julien n'aurait pas été celle qu'elle a été si ça avait été un coin.
Mais
de
non,
table.
Mais je sais pas, j'aime pas perdre. Sur un point coin d'épaule.
Sur un. La réponse.
Sur un coin d'épaule.
Oui. Oh, je l'avais.
J'aurais jamais pu présenter une émission de quiz comme Julien Lepers. Je ne sais pas du tout gérer mon émotion.
Pas du tout.
On m'a proposé de présenter des émissions comme ça et je savais que j'allais pleurer. Les gens allaient perdre. J'ai toujours dit non.
Mais c'est pas possible, moi non plus. On n'est pas fait pour ça, Jarry.
Non, Eva Rock, on est fait pour autre chose.
Un dernier. Oui, mais il est trop tôt pour en parler.
Non, mais pour des émissions rigolotes.
Ah oui, d'accord, bien sûr. Bien sûr. Eva Rock, un dernier avec France Gall, Si maman si.
Tous mes amis sont partis. Mon cœur a déménagé. Mes vacances c'est toujours
pour Paris.
Montpellier.
Non, pour Paris.
C'est Paris. Dis Montpellier.
Bon, vous êtes
Montpellier,
sûr, Eva.
Allez, Montpellier.
Elle a dit Montpellier.
Oh, vous avez perdu, Eva.
Mes vacances c'est toujours Paris.
C'est Paris. Et comme ça, Qui a gagné?
Bah, c'est Jarry.
C'est Jarry. Non, mais je lui laisse le point.
Non, non, non.
Que,
si. Attendez. C'est toujours l'invité qui gagne.
Là où c'est vraiment un quiz pourri, c'est que ce sont toutes les chansons que vous pouvez entendre dans le spectacle de Jarry.
C'est, alors, c'est exactement.
Donc,
ça change souvent.
Ah, ça change souvent.
Oui, il y a quelques chansons qui changent. Enfin, pas de suspense.
Oui, oui,
Eva, il y est allé qu'une fois, Eva, quand même.
Il a expliqué que c'était jamais le même spectacle. En fait.
Oui, c'est vrai. Mais
oui,
Eva
mais
n'a toujours pas compris.
Elles viennent tout le temps.
Il triomphe à l'Européen à Paris avec un spectacle dont le titre est Titre. Alors, imaginez s'il avait un vrai titre. Il remplirait certainement le Stade de France. L'intenable Jarry passe l'après-midi sur Europe 1. À suivre, vous le savez, Europe 1 est la radio des grands événements. Une radio qui ose affronter les grandes questions de notre époque. Cette semaine, après le retrait américain et alors que l'offensive turque menace la stabilité en Syrie, notre correspondant posera la seule question qui vaille. La raie cendrée du Morbier doit-elle être protégée pour éviter que d'autres fromages se fassent passer pour des Morbiers? L'affaire est portée en justice. C'est très sérieux, Jarry. Notre reporter est sur place. Il vous raconte juste après Juliette Armanet, l'Indien sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures à la frontière du journalisme et du burlesque. En compagnie d'un invité arbitre chargé de noter ces feignasses de journalistes qui m'entourent, cet après-midi, c'est le truculent Jarry qui s'y colle. Eva Rock est là aussi. Eva qui me confiait durant le disque que le sujet suivant l'intéressait follement.
J'ai une capacité à mentir des fois.
Oui. Bonjour Arthur Anne-Malché.
Bon appétit, bonjour Mathieu, salut tout le monde.
Vous nous présentez Arthur, le dossier juridique de cette émission, c'est le combat judiciaire des producteurs de Morbier, le fromage, devant la Cour de justice de l'Union européenne, carrément. Mais il est question, Arthur, je crois, d'une raie.
Une raie que, dans la sublime région du Haut-Doubs, on associe toujours à ce qualificatif cendré, la raie cendrée du Morbier. Est-ce que vous voyez de quoi je parle?
Ah, je vois tout à fait de quoi
vous
parlez.
Moi, je ne sais pas du tout parce que...
Eva est hermétique au fromage.
Je suis hermétique au fromage, mais vous allez me raconter, je vais comprendre.
La signature visuelle de ce fromage, le Morbier, vous savez, cette ligne noire ou gris foncé qui traverse le fromage de part en part.
Ah oui, d'accord.
Et voilà l'explication historique de la chose avec Joël Alpi du syndicat interprofessionnel de défense du Morbier. Attention, pour comprendre le son qui vient, Mathieu, vous allez forcément savoir de quoi je parle. Il faut savoir que le méton, c'est une des deux moitiés de ce Morbier, ce qui est justement de part et d'autre de l'arrêt.
C'est un fromage au lait cru qui était fait, on va dire, dans les fermes du Haut-Jura. À cette époque-là, on va dire, les fermes n'avaient pas beaucoup de vaches. Ils avaient fait un petit méton le soir avec le lait des vaches. Puis le lendemain matin, ils ont refait le même méton. Ils ont recollé dessus, mais la nuit, pour le protéger, ils avaient induit donc la cendre du chaudron, la suie du chaudron, protégée, on va dire, des insectes pour la nuit, quoi.
Et pourquoi, Arthur, ce fromage se retrouve devant une juridiction européenne aujourd'hui?
Alors, cette raie cendrée, c'est le truc qui fait que normalement, quand vous tombez dessus au supermarché, sauf Eva, vous vous dites « Ah, et pourquoi pas un petit Morbier ?» Je dis « normalement » parce que la contrefaçon rôde au rayon crèmerie. Il arrive qu'on trouve d'autres fromages qui arborent la même caractéristique visuelle, des fromages
scandale.
Produits, par exemple, bah oui, dans le coin du Massif central. Honteux, parce que le Morbier, fierté franc-comtoise, est protégé par une AOP, une appellation d'origine protégée. Du coup, procédure judiciaire, les producteurs ont perdu en première instance, perdu en appel. Aïe. La Cour de cassation à Paris a dit « il y a un doute ». Mais les AOP, c'est géré par l'Europe. Demandez à la Cour de justice de l'Union européenne. La question, grosso modo, c'est est-ce que le vrai Morbier AOP authentique de Franche-Comté fait dans les règles de l'art a aussi l'exclusivité de la tête qu'il a, de son apparence, verdict dans 6 mois. Sachant, et j'ai trouvé ça assez dingue quand j'ai appris ça hier, sachant que la raie cendrée n'apporte absolument rien d'un point de vue gustatif, zéro goût. Et la méthode de production aujourd'hui, au 21e siècle du Morbier, c'est faire un fromage entier, le couper en deux dans la longueur, mettre un peu de cendre, juste pour la déco, et refermer la meule.
Je vais vous dire, tout fout le camp. Voilà.
Mais oui,
je vous le dis.
Mais alors, est-ce que les contrefaçons, justement, c'était pas de la cendre qu'ils mettaient pour faire cette petite ligne?
Ah, c'est grosso modo la même chose.
Non,
c'était juste, c'est des fromages qui n'étaient pas du Morbier qui se grimaient en Morbier.
Oui, Arthur, enfin, la réponse est un peu légère. Je vous demanderai d'enquêter quand même, mais de poursuivre l'investigation
dans la
un petit peu plus loin. Oui. Merci beaucoup, Arthur Elmaché, notre correspondant dans l'Est.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue, l'électron libre de l'humour français Jarry est avec nous et deux nouveaux compétiteurs s'apprêtent à nous rejoindre. Nicolas Caro, avant de partir et histoire d'essayer de lui arracher quelques points, vous avez peut-être envie de dire quelque chose au sujet de Jarry?
Le type ressemble à Brad Pitt.
Quelque chose de crédible, probablement été plus efficace. Enfin, à suivre. On parlera de la construction de l'horloge la plus précise de tous les temps et puis de notre nouvelle manière de consommer la viande. Jarry, vous aimez la viande?
Oui, raisonnablement.
Raisonnablement, moi aussi, à tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. Une joute en mocassin entre les plus beaux spécimens de journalistes que j'ai pu dégoter. Chaque après-midi, il se castagne au service de votre culture G. Le plus méritant sera logiquement élu chroniqueur du jour sous l'œil d'un invité d'honneur qui généralement sort du studio ravi car on a l'art de mettre les stars en valeur. Charles Berling peut en témoigner. Vous avez d'ailleurs vous avez sorti un album.
Ah oui, en 2012.
Ça avait marché ?
Ouais, non, pas bien.
Aujourd'hui, c'est l'humoriste Jarry qui, en fin d'émission, se dira certainement qu'il n'a pas fait le voyage pour rien. Restez avec nous, mon cher Jarry. On va parler bonne barbaque et grosse horloge. Ça pourrait être un code entre nous. Ça n'en est pas un.
Titre.
Europe 1.
16h-18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes de la rédac continue. 2 heures pour rentrer chez vous, plus gay que vous n'en êtes parti ce matin, car comme disait Goethe...
Il ne faut pas avoir honte d'être gay.
Une devise qu'a fait sienne le formidable Jarry qui nous accompagne cet après-midi. Tout se passe bien pour l'instant, Jarry.
Mais c'est magnifique,
quelle bonne ambiance.
Mais joie, bonheur dans les cœurs.
Ah, c'est que vous n'avez pas encore rencontré Alain Siron. Peut-être l'avez-vous déjà croisé lorsqu'enfant, vous laissiez une personne âgée s'asseoir dans le bus et que derrière ses grandes lunettes, cette personne vous disait
« Tu aimes les étoiles, mon petit ?»
Bonjour Alain Siron.
Bonjour Mathieu, bonjour Jarry, bonjour à tous.
Vous êtes le consultant scientifique d'Europe 1 et cet après-midi, vous nous parlez d'une horloge pas comme les autres.
Eh oui, vous savez que le temps file très vite, c'est moins qu'on puisse dire. À l'heure où l'information circule à la vitesse de la lumière, certains pensent, imaginent fabriquer, et ça a commencé, une horloge qui durera 10 000 ans.
Ah, 10 000 ans, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait une confusion sur les forêts.
Ah oui.
C'est l'horloge qui dure 10 000 ans oui. Et la forêt 1000 ans. À ses côtés, Jarry, par pitié, soyez sympa avec lui. Il se remet encore difficilement de sa rencontre avec Pef lundi.
Quand on s'appelle Axel de Tarlé, enfin déjà, à la base, on n'a pas de chance, quoi.
Bonjour Axel de Tarlé.
J'ai trouvé ça incroyable d'être attaqué sur mon nom, surtout de la part d'un mec qui s'appelle Pef.
La vengeance est un plat qui se mange froid, mais chaud, c'est bon aussi.
Mais c'est vrai que c'est un nom. Moi-même, j'ai eu un petit mot en arrivant en découvrant votre nom. Non, parce que ça fait Axel de Tarba, celui à qui on ne peut pas avoir confiance. C'est pour ça que ça m'a fait rire.
Mais foutez-moi la paix, mon nom. Mais est-ce que je commande Jarry ou Pef?
Mais c'est très joli, ma paix.
Hey, Mathieu Christmas, non.
Ne cassez pas la gueule à l'invité, Axel de Tarlé. Vous êtes notre expert éco. Vous avez pris cher lundi, mais là, face à Jarry, je suis sûr que vous avez un atout.
J'ai un petit truc.
Oui, ça peut marcher. Mais sinon, en termes de sujet, sur le fond, vous allez nous parler de quoi, Axel?
Je vais vous parler de notre consommation de viande. Vous savez qu'on mange chaque année son poids en viande. C'est incroyable. Hein.
Ah oui.
On mange son poids
Combien
en viande.
Combien vous pesez?
Je pèse malheureusement le vrai poids ou le poids?
Votre vrai poids.
Mon faux poids, c'est 86 kilos. Ça
ne
bouge jamais.
C'est ça.
Mon vrai poids, ça fait
86 kilos de viande chaque année.
Ah oui, comme vous dites. Il faut effectivement.
On mange tous un petit Mathieu Noël.
un petit Mathieu Christmas. Notre nouveau rapport à la viande ou bien l'horloge infaillible. Quel sujet vous intrigue le plus? Vous votez via Twitter et c'est notre invité Jarry qui tranchera en fin d'émission. Mais au fait, qui est Jarry pour vous? Voici non pas un micro-trottoir, toujours monté de manière flagorneuse pour l'invité, non, voici un micro-trop-trash. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on n'a rien censuré.
Jarry, un humoriste?
Il passe dans Vendredi Tout est permis avec Arthur.
Je sais, t'es
comme... Oh, mais je l'aime trop.
Oh, je l'aime trop.
Il a une petite touffe de cheveux, mais un peu pas trop garnie.
Il a des lunettes, il est très efféminé, il est très drôle.
Il s'assume, c'est parfait, surtout au jour d'aujourd'hui, c'est parfait.
Coucou Jarry.
On en veut plus comme lui.
Ça donne un très bon exemple pour tous ceux qui n'osent pas se dévoiler à leurs parents, à leurs amis, à leur entourage, c'est un très bon exemple.
Allô, Jarry?
Il ressemble un petit peu à un petit poulet qui viendrait naître un peu.
Jarry.
J'adore Jarry. J'aime trop Jarry. Ah, vous m'enregistrez là?
À chaque fois que je le vois, je rigole.
Jarry, je te fais un gros bisou de la Réunion. Voilà.
Alors, Jarry, c'est marrant, vous avez rigolé à un moment de ce micro-trottoir où moi je pensais que c'était quelque chose d'intéressant qui était dit sur vous. La jeune femme disait vous êtes plus qu'un artiste, vous êtes un exemple. Ça vous a fait marrer, vous n'avez pas envie d'être un exemple,
mais
vous en foutez.
Pas du tout, mais non, on est l'exemple
mais
déjà.
Un exemple de liberté, de ce que vous êtes et d'assumer.
Oui, enfin, j'aime pas ce mot exemple parce que moi-même, quand je me regarde, je me dis oulala, c'est compliqué quand même, c'est un dessin, mais il n'est pas fini. Oui, que je donne envie, mais je crois surtout qu'il faut dire aux gens d'être libre plus que jamais et d'être profondément ce qu'ils sont et de pas être dans le mensonge et l'injustice, quoi.
Alors Jarry, vous avez mis du temps visiblement à être libre. Vous avez grandi à Rabelais-sur-Layon, un village de 600 habitants à côté d'Angers. Je crois que vous avez 22 ans quand vous débarquez à Paris et dans une interview vous avez confié que ça a été la pire année de votre vie.
Ah oui, quoi? Bah parce que j'habitais un tout petit appartement de 9 mètres carrés et moi je disais bonjour à tout le monde. Et chaque jour, personne ne me répondait. Et vraiment, c'était très dur pour moi.
Dans le métro, bonjour.
Dans le métro, parce que je venais de là et c'était comme ça. Quand tu viens d'un petit village et que tu as l'habitude d'être dans un rapport familier avec les gens. Et puis parce que aussi, je passais des castings à l'époque et comme les gens me prenaient vraiment pour un débile, j'avais l'impression d'être Mimi Sicu dans Un Indien dans la ville. Quoi.
Qu'est-ce qui a
Mais habillé.
Mais habillé. Vous nous rassurez un petit peu. Mais peut-être ça aurait mieux marché en Mimi Sicu.
Ah, bah, j'aurais pas fait la même carrière.
C'est une autre carrière que vous attendez dans ce bois dont on parlait.
Exactement.
Tout à l'heure, cette forêt primaire qu'est le bois de Boulogne. Finalement, c'est Didier Bourdon qui vous découvre.
Oui, j'ai la chance de passer un casting pour son film Bambou. Et j'ai, je crois, une vingtaine de jours de tournage et tous les jours, il me dit Jari, il faut que tu fasses de l'humour. T'as vraiment
parce
quelque
que vous
chose.
Marrer tout le monde.
Parce que je faisais marrer tout le monde, pareil, sans le vouloir. Et j'ai écrit un sketch grâce à lui et puis ça a été la liberté.
Il triomphe sur la scène de l'Européen à Paris avant d'entamer une grande tournée dans toute la France. Jari passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Eva Rock, Axel de Tarlé, Alain Sirou sont à mes côtés. Belle brochette, pas vrai, Jari?
Ah oui.
C'était le oui le moins enthousiaste de l'histoire.
Parce que non, j'ai l'impression d'être en conseil de classe, tu sais. Et je suis le délégué de classe, ils vont dire alors bien, cette classe est problématique.
À suivre, si à l'heure du dîner, vous en avez marre d'entendre votre mari s'exclamer:
où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les pâtés de serre? Y a pas quelques signes blancs bien poirés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit.
Mon conseil, changez de mari. Car notre rapport à la viande est en train lui aussi de changer. Combien faut-il en manger par semaine? Faut-il croire ces études récentes qui disent qu'au contraire la viande rouge est bonne pour la santé? Je ne sais absolument pas si Axel de Tarlé a prévu de répondre à ces questions, mais je me suis dit que ça faisait un bon teasing. A tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue avec l'entrée en piste de celui qui, contrairement à Jari, notre invité, a raté le train de l'humour pour lequel il avait pourtant indéniablement un billet. Il a fini journaliste éco, ce qui est bien mais pas top quand on sait l'incroyable potentiel comique du gaillard, potentiel comique qu'il emploie jour après jour pour saborder ses adversaires dans l'équipe est sauvage.
Donc sur un œuf, vous avez des chiffres et des lettres. Alors,
elle est très bonne cette blague.
Rencontre au sommet de l'humour donc, Jari, Axel de Tarlé, Axel, Jari. Et cet après-midi, histoire de mettre toutes les chances de votre côté, vous allez nous parler de viande.
Exactement, puisqu'il y a un rapport qui vient d'être publié d'Agrimaire et de Kantar, repris dans les Échos et repris sur Europe 1, donc, sur notre consommation de viande. Et c'est très surprenant. Si vous regardez depuis 2007, notre consommation globale, il y a plein de changements, de viande n'a pas bougé, je l'ai dit tout à l'heure. Nous, chaque Français consomme en moyenne, moi ce chiffre m'hallucine, 83 kilos de viande. Alors évidemment, il y a le type de viande qui a bougé. On mange de moins en moins de bœuf, donc en 12 ans, la consommation de bœuf a baissé de 12%. En revanche, c'est la volaille qui a explosé. Hein. On se prend de plus en plus de canards, de poulets, etc. Plus 30%. Alors, pourquoi est-ce que la consommation de bœuf a baissé? C'est essentiellement, vous en avez parlé, pour des raisons de santé. Vous savez, la viande rouge, c'est...
Il y a beaucoup d'études qui nous disent tout le temps que la viande rouge, il ne faut pas trop,
voilà,
une ou deux fois par semaine, pas plus.
Ça provoque du cholestérol, de la tension artérielle. Donc, ça infuse et donc on achète moins de viande rouge. Et puis, la viande rouge, c'est beaucoup plus cher. Un kilo de bœuf, c'est 16 euros, alors qu'un kilo de volaille...
Je rigole parce que vous avez l'impression que vous êtes vénère.
C'est ça que...
Le bœuf, c'est 16 kilos.
Non, 16 euros, le kilo.
Voilà. J'adore la passion. Quoi.
Tout ça pour dire que notre consommation de viande a changé, non pas parce qu'on serait devenu subitement très sensible à la question animale, mais c'est pour des questions de santé personnelle et pour des questions de portefeuille. Vous
évidemment,
voyez
évidemment.
Voilà. Et les vrais végétariens, ceux qui disent... Enfin, maintenant, on dit vegan ou... Enfin, il y a une différence, mais ceux qui ne mangent jamais de viande...
Ce que j'aime bien avec Axel, c'est qu'il est pointu. C'est-à-dire que là, vegan, végétarien, c'est pas la même chose.
Oui, c'est pas la même chose. Voilà. Mais ceux qui ne mangent jamais de viande, c'est très rare, en fait. Alors, eux, ils le font pour une cause, pour le bien-être animal, et parce que pour défendre la cause animale, mais ils sont très rares. Tout ça pour dire que si l'on mange moins de viande, ça n'est pas par religion, c'est par opportunisme. Ce qui fait que dans les restaurants, eh bien, on veut se faire plaisir, les trois quarts des Français qui vont dans la restaurant. Et voilà. Et du coup, on se dit, c'est le moment de
manger la barbaque au resto. Ouais,
une bonne barbaque. Et c'est pour ça que c'est très contre-intuitif, mais les steakhouse et les restaurants de viande cartonnent pour deux raisons. Un, parce que justement, c'est le moment de se payer la bonne côte de bœuf qu'on ne s'offre plus à la maison. Et puis, il y a tous les jeunes qui sortent dans les fast-food et qui sont aussi très burgers. La mode du burger a explosé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle, vous savez, beaucoup de viande végétale.
Mais si ça va vraiment arriver, ça, la viande végétale?
Eh bien, justement, ils ont changé leur braquet. Maintenant, si vous les regardez, les KFC, là, ils font tous Nestlé, etc.
pardon, Axel, il faut expliquer à nos auditeurs, on joue à un jeu avec Jari qui s'appelle Titre. C'est-à-dire que dès qu'on entend une phrase qui peut ressembler au titre d'un film pornographique, on dit Titre.
Ah, voilà. Et là, ils ont changé de braquet
tout de suite avec Jari, ça a percuté.
Quoi. Voilà, donc ils ont abandonné le végétal pour le carnet, parce que c'est ça que je voulais dire, changer leur braquet. C'est qu'autrefois, ils assumaient de faire. Non, ils assumaient pas du tout, au contraire. Ils disaient, on va faire de la viande végétale, alors que maintenant, on dit, on va faire de la viande qui ressemble à de la vraie viande. Donc, vous savez, maintenant, la nouvelle viande végétale, on reproduit la couleur du sang et de la betterave, oui. On reproduit même le sang qui coule, etc., parce qu'on veut tromper les papilles.
Et voilà. Titre.
Ça se discute. J'arrive, vous faites attention à ce que vous mangez ou vu l'énergie, vu les calories que vous devez brûler sur scène chaque soir, vous pouvez bouffer n'importe quoi au McDo.
Non, je fais extrêmement attention à ce que je mange. Vraiment, j'ai appris à équilibrer mon alimentation depuis un an et demi. D'ailleurs, j'ai perdu 9 kilos en mangeant.
On vous en félicite.
Mon partenaire aussi est heureux. Je fais très attention à ça, effectivement, d'alterner le poisson, les viandes, mais comme les deux sont en voie de disparition. C'est un peu inquiétant.
Est-ce que vous mangez le poids d'Axel de Tarlet en viande chaque année chez vous? Réfléchissez, posez-vous les bonnes questions. Il est notre invité jusqu'à 18h. Jari est avec nous.
Europe 1.
À suivre, l'horloge la plus sophistiquée de tous les temps est en construction au Texas. Elle sonnera tous les siècles pendant 10 000 ans. Ça peut paraître long. En même temps, 10 000 ans, c'est le temps qu'il a fallu aux scientifiques, dont Alain Siroux, pour arriver à cette conclusion incroyable.
Finalement, une jeune femme, elle a un cerveau comme un homme.
Oh, sont forts ces scientifiques. Alain Siroux et l'horloge magique arrivent. Juste après, Lewis Capaldi, Someone You Loved sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Nous sommes au cœur d'une des éditions les plus déjantées de l'équipe est sauvage.
Ouais.
Notre invité, l'ébouriffant Jari, chanteur à 16h, met le feu au studio Coluche avec son organe épatant. Enchaînant les gags, mais attention Jari, nous allons entrer maintenant dans une phase plus calme de l'émission.
T'es prêt pour Tata Yo-Yo 3-4?
Non, je ne suis pas prêt pour Tata Yo-Yo 3-4, on se calme. Car mon cher Jari, au-delà de votre excellent spectacle Titre actuellement à l'Européen à Paris et bientôt en tournée dans toute la France, on a envie de profiter de ce moment privilégié avec vous pour apprendre à mieux vous connaître. Par exemple, dans le spectacle, vous parlez de vos enfants. Vous dites « Je suis vraiment le père de ces enfants, de manière génétique, c'est important pour moi ». Adopter en France pour un homme, c'est très compliqué, voire impossible. Selon vous, le système français de ce côté-là a encore beaucoup de retard.
C'est tellement honteux, j'ai tellement honte de la France par rapport à l'adoption pour un couple homosexuel, puisqu'on vous fait très clairement comprendre dans votre démarche que vous aurez un enfant dit à particularité. Et il y a eu cette affaire qui est sortie il y a quelques mois, souvenez-vous, où on avait donné un enfant atteint du sida à un couple homosexuel en lui mettant « vous connaissez le problème ». Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est évidemment intolérable, où on vous propose d'être famille d'accueil, mais en vous disant qu'on peut vous retirer l'enfant n'importe quel moment. Comment en 2019, dans un pays droit égalité des droits de l'homme, on ne prend pas en compte ça? Je sais pas en fait.
Vous avez eu recours à la GPA à l'étranger, aux États-Unis, on peut le dire, mais vous ne militez pas pour la GPA particulièrement. Vous aimeriez vraiment que l'adoption soit ouverte aux couples homosexuels.
Et parce que moi, j'ai fait une GPA parce que l'adoption, ça faisait déjà plus de 4 ans que j'étais en démarche et qu'on me disait d'attendre encore entre 7 et 9 ans. Donc je me suis dit, à un moment donné, je vais mourir. Donc ce serait bien quand même que je puisse profiter quelques années de ces enfants. Donc oui, puis la GPA, je suis pour une GPA qui soit suivie. Et aux États-Unis, c'est un long processus. Vous passez devant un juge, il y a une enquête sociale qui est menée. Enfin voilà, je ne suis pas pour la GPA en Inde, en Roumanie, dans tous ces pays où on ne sait pas trop ce qui s'y passe.
Bien sûr. Sur les levées de boucliers qu'on a pu voir encore récemment, vous dites, plutôt que de perdre toute cette énergie à manifester contre l'amour qu'on peut donner à un enfant, trouvez des projets qui fédèrent les gens. Ne perdez pas votre temps à manifester avec vos drapeaux ridicules et vos couleurs archaïques bleues et roses. Qu'est-ce qu'on dit à un enfant dont le père est décédé? Alors tu n'as pas de papa? Qu'est-ce qu'on dit aux familles monoparentales? À un moment donné, c'est le bien-être de l'enfant qui compte.
Moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est à quel point les hommes politiques sont complètement dehors des réalités. C'est quand même préoccupant. Je veux dire, on a une responsabilité, comme moi j'ai la responsabilité de continuer à faire mes courses dans les grandes surfaces et de rencontrer les gens de la vraie vie. Et ces gens-là, je ne sais pas où ils vivent, mais c'est très préoccupant. Les gars, on se réveille, on se met un petit coup de pied au cucu et puis on vient parler aux Français.
On se met un petit coup de pied au cucu. Le message est lancé sur l'antenne d'Europe 1. Titre. Bien joué, Axel, il a compris le français.
Il a peut-être gagné des points.
Bien joué, Axel. Ça doit être un nouveau jeu dans notre émission, d'ailleurs. Jari, est-ce que vous avez encore le temps de regarder la télé ou les écrans?
Oui, j'ai le temps entre minuit et 2h du matin.
Oui, mais c'est bien, ça vous fait 2h, c'est pas mal. Selon une étude de l'université d'Oxford, on perd tous en moyenne désormais 17 minutes chaque soir à bloquer devant l'écran d'accueil de Netflix et à s'engueuler avec notre conjoint pour décider quelle série on va regarder, vu le choix des possibles. Heureusement, il y a désormais 17 minutes de gagner. C'était Varrock qui nous les fait gagner ces minutes.
Eh bien écoutez, je ne savais pas qu'on avait parlé d'adoption juste avant cette séquence, mais vous allez comprendre que tout ça s'emboîte bien. À l'âge de... Oui, titre. Titre, on est d'accord. C'est vrai, c'est pas mal. En 2011, à l'âge de 25 ans, Olivier Rousteing a été nommé directeur artistique de la maison de haute couture Balmain. Et depuis, ce garçon fait preuve d'une hyperactivité assez impressionnante. 14 collections par an, des stars habillées de Jennifer Lopez à Rihanna, inauguration de boutiques dans le monde entier. C'est un jeune homme richissime, au parcours exemplaire. Il est né sous X en 1985 et puis il a été adopté par des parents très aimants. Sauf qu'à la trentaine, eh bien, les questions existentielles se bousculent dans sa tête.
Parce qu'en fait, ça me trotte depuis pas mal de temps dans la tête.
De savoir qui c'est.
Ouais. Et tu vois, je me dis à chaque fois que je fais tous les interviews, à chaque fois quand... Enfin, t'imagines ? Je pense que ma mère, elle voit... Elle... Enfin, tu penses que quand... Par exemple, quand je fais tous les trucs à la télé, etc., tu crois qu'elle elle arrive à voir que c'est son fils ? Tu crois que tu peux sentir quelque chose comme ça ?
Il dit « Tant que je ne saurai pas qui je suis, je ne pourrai pas m'aimer ». C'est ça ce qu'il dit Olivier Rousteing et qui se répète à longueur de journée. Depuis 2017, la réalisatrice Anissa Bonnefond le suit, alors à la fois dans son travail créatif, mais aussi dans cette quête d'identité. Et pas à pas, il tente de comprendre qui sont ses parents biologiques, une démarche personnelle et administrative qui passe par l'aide sociale à l'enfance et qu'il va devoir aussi expliquer à ses parents adoptifs.
Hier, la DAS m'a appelé et ont trouvé mon dossier et m'ont confirmé qu'il y avait quelque chose à l'intérieur.
Alors là, je suis très très heureux pour toi. Alors qu'est-ce que tu fais ? Comment ils t'ont dit de faire ?
Au final, je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur ? Il m'a dit, oui, il y aura des choses. Je ne sais pas s'il répondra à toutes vos questions, mais il y aura certainement des questions à lesquelles vous aurez vos réponses.
J'ai rarement été aussi bouleversée par un documentaire sur une personnalité. Ça s'appelle Wonder Boy, c'est sur Canal+, ce soir à 21h, mais sur MyCanal aussi. Et il y a une scène en particulier quand Olivier Rousteing va ouvrir ce dossier, donc avec une personne à côté de lui.
Parce qu'il parle de suspense.
Mais oui, il y a un peu de suspense, mais il va retrouver quelques indications sur sa maman, notamment qu'elle a accouché à l'âge de 15 ans. Il s'effondre en larmes, et nous avec, sincèrement. C'est à voir absolument sur Canal+, sur MyCanal.fr, et sorti au cinéma le 27 novembre.
Ah bah comme ça, on est sûr de le voir, Jarry.
Wonder Boy.
Non mais, alors... Je ne l'ai pas vu, mais je suis déjà complètement ému, donc je vais le regarder. Mais c'est toujours la question de transparence, c'est-à-dire de répondre aux questions. Et je ne sais pas pourquoi dans ce pays, on aime les mystères. Il n'a pas forcément besoin d'un deuxième papa ou d'une autre maman. Il a juste besoin de connaître son histoire. C'est quand même important de s'enraciner dans la réalité.
Eh bien là, vraiment, 17 minutes de gagné. Merci Eva Rock.
Europe 1.
À suivre, l'horloge la plus précise de tous les temps est en construction au Texas. Pourquoi faire ? Attention, étirez bien vos neurones. Alain Sirou, notre expert scientifique, arrive. Et ce n'est pas toujours facile de le suivre lorsqu'il se lance dans des raisonnements complexes et pointus, comme vendredi dernier, hors antenne, avec notre invité Charles Berling, fan d'astrophysique. Eva a essayé de suivre, et puis au bout d'un moment, on va dire qu'elle s'est impatientée.
C'était très, très beau ce qu'il disait sur la masse critique et sur le fait qu'au fond, le savoir, la recherche, l'espace critique, en fait, se déplace dans les périodes historiques de...
On y va ?
Allez, vite, vite, vite !
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
C'est dans l'enceinte surchauffée et saturée de testostérone du studio
titre.
Coluche que... Oui, Eva, titre aussi, que nous vous accueillons pour l'équipe est sauvage. 2 heures d'un combat sans merci et sans coquille entre les plus valeureux journalistes d'Europe 1 qui s'affrontent au service de votre savoir. Un seul sera élu chroniqueur du jour sous l'œil d'un invité arbitre qui, comme François Gabart hier, s'étonne parfois de l'intensité des combats et de ses conséquences.
Ça sent super fort.
Enfin, oui.
Oui, effectivement. Ah oui, là, en même temps, tout le monde se surpasse ici. À nos côtés aujourd'hui, un humoriste qui n'en finit pas de monter. Jarry est en spectacle à l'Européen.
Ah, qui n'en finit pas de monter. Titre.
Titre aussi. Avant une tournée dans toute la France, Eva, quelques dates peut-être.
Oui, alors il y en a plein. Vous les retrouvez sur europe1.fr, mais Rennes, par exemple,
plein, c'est pas une réponse à ma question.
Non, mais regardez toute la liste que j'ai devant. Regardez cette liste
là,
immense.
Les auditeurs ne la voient pas.
Eh bien, alors Carcassonne le 25 février, Vittel le 6 mars, Besançon le 7 mars, Lyon le 13 mars, Lille le 18 avril, Bruxelles le 22 avril.
Bruxelles.
Moi, je prononce les X comme dans le sud, donc prononce les X. Je suis désolée. Et évidemment, la tournée des Zéniths, ce sera en 2021.
Jarry est pour l'instant l'affiche de l'Européen. On continue d'en parler, mais l'heure est venu d'entendre notre dernier journaliste en compétition cet après-midi. Alain Sirou, je vois que vous êtes prêt, mais je sens Jarry un peu gêné. Que se passe-t-il, Jarry ?
Avant de commencer, est-ce que vous pouvez serrer les jambes, monsieur ? Je vois toute la vaisselle.
Oui, croisez les jambes, ça sera plus facile pour Jarry de se concentrer sur le fond de votre papier. Chronique alléchante, autant qu'intrigante aujourd'hui, puisque vous nous parlez d'une grosse horloge. Rien de votre ouais, lascif.
Non, mais c'est parce qu'Axel a fait appel au cerveau reptilien de Jarry, et moi je fais appel à son cerveau sensible, à sa perception d'homo sapiens, c'est-à-dire dans l'humanité et dans le temps, dans la distance du temps.
C'est déjà compliqué.
Alors moi j'adore.
Vous adorez.
Ah, je trouve ça très sexy.
Pour vous parler de quelque chose qui est en cours de construction aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, c'est une horloge qu'on appelle l'horloge du long maintenant. Et qui, à leur titre bien sûr, qui a aussi pour objectif de construire quelque chose qui dure 10 000 ans. Alors je vous rappelle que Khéops, c'est 4500 ans. 10 000 ans, c'est quelque chose dont on n'a pas la perception en termes d'humanité. Et l'idée, c'est d'avoir une horloge qui fasse un tic par an, qui sonne qui sonne chaque siècle. Et puis, on se retrouve autour chaque millénaire. Donc, comment on fabrique ça? En fabriquant quelque chose qui n'a pas besoin de l'homme, qui n'a pas besoin d'informatique, qui va être construit et qui est en cours de construction dans une falaise au Texas, qui va bénéficier en fait de l'énergie du soleil et du contraste qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur de la grotte, en quelque sorte. Donc c'est en utilisant ces variations de température que on va faire bouger cette horloge, qui est construite à partir de matériaux extrêmement résistants, du saphir, du titane, etc., etc., et par des gens qui sont, je dirais, des ingénieurs qui ont construit les ordinateurs les plus puissants du monde au XXe siècle et qui s'amusent, entre guillemets, à construire l'ordinateur le plus lent et le plus mécanique qui soit. Donc,
il n'y a pas un pet d'électronique dedans.
Absolument
pas. Donc,
ça
ne peut pas bugger.
Absolument
fait.
Pas. Bah, ça, on n'en sait rien parce qu'il va falloir attendre 10 000 ans. Mais,
vous nous direz.
Mais l'idée, c'est ça. Et tout le monde s'organise pour ça. Ce que j'adore, c'est qu'on a déjà construit et imaginé le carillon qui est fabriqué par Brian Eno. Vous allez entendre ce qu'on entendrait.
Dans 10 000 ans, on l'aura complètement oublié. Les mecs qui sont à côté, ils auront construit leur pavillon. Ils seront flippés, quoi, quand t'entends ça.
Donc, l'idée, c'est ça. C'est finalement des carillons qui sonnent de temps en temps, sur un temps long. Brian Eno est un musicien britannique qui s'inspire aussi de la question de la temporalité. Qu'est-ce que c'est que le temps? Et 10 000 ans, ça a un sens, parce que 10 000 ans, c'est l'histoire de l'humanité. L'agriculture démarre il y a 10 000 ans.
Oui.
La fin de la glaciation, c'est 10 000 ans. Et se projeter dans 10 000 ans, c'est aussi de se donner un défi qui est tout à fait extraordinaire, qui est: est-ce que l'on peut penser à long terme alors qu'aujourd'hui on a le nez dans le mur? Et c'est vrai qu'avoir le nez dans le mur, ça ne nous aide pas vraiment à avoir des perspectives très intéressantes.
Non, là c'est carrément une série.
Voilà. Donc, je dirais que c'est ça qui est en cours de construction. C'est financé par Jeff Bezos en particulier et par un certain nombre de gens qui veulent qu'on essaie de se décaler. Alors bien sûr, il y a un défi technique, technologique, scientifique, si on peut dire, mais c'est surtout une projection sur le futur, et on a besoin de cette projection sur le futur, parce que l'an 2000, c'était, je dirais, le futur quand on est né, en tout cas pour moi. Aujourd'hui, si on donne une date du futur, on ne sait pas, on est confronté à des défis monstrueux qui sont le climat, la biodiversité, etc., et même l'homme. Et 10 000 ans, c'est un horizon temporel qui fait rêver. Pour
mais le problème, Alain, c'est que dans 10 000 ans, on sera peut-être plus sur Terre. L'humanité aura peut-être migré.
Il n'y aura peut-être même plus de Terre du tout.
Il n'y aura peut-être même plus de Terre. Il ne restera que cette horloge.
Mais ça sonnera toujours.
Ça sonnera toujours.
En tout cas, si on ne l'a pas détruit.
Est-ce que nous avons le temps? Oui, nous avons le temps, Alain, pour écouter la question vache de l'autre chroniqueur, Axel de Tarlé. On vous écoute.
Moi, je voulais vous parler d'une autre horloge bien plus connue. Il s'agit de... Moi, je suis un peu bête, on parle d'horloge, je pense à l'horloge parlante. Alors, horloge parlante, saviez-vous que c'était une invention française? Le 4 février 1933.
C'est pas une question, c'est un exposé,
oui,
ça.
Oui, non, mais attendez, il va y avoir une question au bout de mon exposé. inventé par le professeur Ernest Esclangon. Qui était-il et pourquoi a-t-il inventé l'horloge parlante? Il y a une raison très précise, le 4 février 1933.
Il a perdu sa montre.
Ça lui était d'une utilité à lui.
Pas loin, il avait perdu sa montre.
Non, il voulait que tout le monde soit à la même heure, surtout.
Pas loin. Eh bien, non, ce qui se passe, c'est que
c'était
le patron de l'Observatoire de Paris. Or, à l'époque, c'était l'Observatoire de Paris qui donnait l'heure. Et il en avait ras-le-bol parce qu'il avait qu'une ligne téléphonique qui était sans arrêt occupée par tous les quidam qui appelaient « Bonjour l'Observatoire, quelle heure est-il ?» Et donc, il n'avait pas de téléphone à cause de tous les gens qui téléphonaient. Et donc, il a créé cette ligne spéciale qui qui est devenue l'horloge parlante.
Et c'est une actrice qui a été la première voix, une femme du cinéma.
Oui. Bon. Ça n'en en tous les cas, pas. Vous n'avez pas le point de
c'est une
la
surenchère,
question
vache, hein. Une surenchère d'informations. Merci en tout cas Alain Sirou. Votre chronique aura-t-elle plu à notre invité? En tout cas, je crois que vous connaissez un peu Jarry. Vous me disiez hors antenne qu'une nuit, vous aviez même fait une sacrée chouille avec lui. Il avait fini comment?
Alors il broutait de l'herbe dans une steppe où s'était mise à pousser des forêts de conifères.
Ah ouais. Sacré Jarry, t'as pas changé. Hein. Il a jamais tenu le jet en sec. À suivre, il est déjà tard et vous vous dites que pour le dîner, quelques bâtonnets Findus feront l'affaire. Pas bien, vous le savez, dans l'équipe sauvage, on aime que vous mangiez équilibré. C'est pourquoi notre cordon bleu Olivier Pouls vous propose aujourd'hui le plat détox par excellence, le bœuf stroganoff. Un plat roboratif, mais surtout...
communiste bolchevique.
Non, russe, Axel, russe. Respirez, ça va bien se passer.
L'équipe sauvage sur Europe 1.
16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe sauvage continue. Deux heures de bonne humeur compétitive où les meilleurs journalistes de la station se tirent la bourre au service de votre culture G. Le tout, non pas titre, j'arrive, pas tout le temps, pas à chaque fois.
Non.
Le tout dans une ambiance rieuse, justement. Beaucoup de messages depuis quelques jours pour me dire « Mathieu, tu es vraiment odieux avec Eva à l'antenne. Es-tu vraiment une saloperie dans la vie ou bien c'est juste un rôle de composition ?» Oh, mes bichons. Mais enfin, évidemment que c'est un rôle de composition. Dès que les micros sont coupés, je redeviens moi-même.
Regarde, je t'ai offert un stylo.
Ça, c'est pourri.
Quoi, c'est pourri? Non, c'est un stylo fait.
Je suis vraiment une ordure.
Non, c'est pas représentatif de qui je suis vraiment. Bah, bref, aujourd'hui, on reçoit un comédien, un vrai. Vous pouvez l'applaudir sur la scène de l'Européen à Paris jusqu'au 4 janvier, puis en tournée dans toute la France, Eva.
Exactement. Quelques dates. Allez, Liège, le 23 avril, ça sera en 2020, pardon. Hein, Lorient, le 16 mai 2020 aussi. Et puis, on l'a dit, mais évidemment, toute la tournée des Zéniths de France, ce sera en 2021.
Jarry, dans votre spectacle, vous évoquez frontalement votre homosexualité. Pourtant, vous n'avez pas envie d'être un porte-étendard de la cause gay. Hein, vous dites que vous n'avez pas notamment la culture gay.
Non, et puis je suis contre toute forme de communautarisme. C'est quelque chose que je déteste. Je crois une des rares fois où je suis arrivé à Paris, je suis allé dans un bar gay. On m'a dit non, vous ne pouvez pas rentrer. C'est bière. Alors, je fais pas non. C'est-à-dire que alors, je suis bières, dans quelle catégorie?
Il faut expliquer, les bières, c'est une catégorie de. Je sais pas si c'est juste des gays d'ailleurs.
Des gays, enfin, il faut être.
Qui sont barbus.
Barbus et un peu gros et poilu.
Voilà.
Et je sortais d'une séance d'épilation, donc j'étais pas du tout dans le game. Donc non, je suis pas un porte-drapeau parce que d'abord c'est trop lourd. Non, mais parce que voilà, je pense qu'on est fait pour vivre ensemble. Il faut arrêter de chercher des endroits où on se sépare et où on est rassuré d'être ensemble.
En 2018, vous évoquiez un projet de film tourné en Anjou, dans la région oui. de votre enfance. Où en êtes-vous de ce projet? Est-ce que ça va voir le jour?
Alors ça va voir le jour ce film. On est en train d'être en phase de production. C'est comme c'est sur l'histoire de mon papa. J'ai voulu prendre le temps et j'ai besoin de prendre du temps d'ailleurs pour aussi savoir comment maintenant j'ai envie de le filmer et quel acteur j'ai envie dedans.
Vous avez trouvé pour le casting le rôle de votre papa ou pas?
J'ai des gens en tête dont peut-être une personne qui a été citée en début d'émission.
Ah mince, maintenant il faut qu'on se remémore.
Moi j'ai trouvé.
Ah, si,
mais
moi
non,
aussi.
On ne le dit pas, Eva. On laissera nos auditeurs le trouver eux-mêmes. D'accord. Vous avez commencé le tournage d'une nouvelle émission qui arrive dans quelques semaines sur TF1. Dont
oui
vous êtes jury aux côtés d'Alessandra Sublet.
Tiens.
Oui, Kev Adams et Angoun. Ça s'appelle Mask Singer. Je ne suis pas sûr d'avoir compris le concept. Il y a des célébrités qui chantent cachées sous un costume. C'est ça.
Il y a 12 célébrités cachées sous des costumes d'animaux, donc il y a la licorne, la panthère, on a le lion. Ce sont des gens, ça peut être un homme politique, un sportif, un chroniqueur, un présentateur télé, un chanteur, et ils viennent chanter et on doit savoir qui est sous le masque. Franchement, l'animal qui a gagné.
L'animal qui a gagné, oui.
Oui, parce que c'est très drôle, on parle quand même à une licorne, on parle à une jument. Pas une jument, pardon.
Jument.
Non, ça, je crois que c'est un fantasme.
C'est autre chose, visiblement. C'était la soirée d'après l'émission, ça. C'était dans un autre endroit.
Non, puis avec Alessandra Sublet, c'est quand même très très drôle. Elle rend hommage tous les jours au dictionnaire et à la grammaire.
Il est à l'affiche de l'Européen à Paris avant une tournée dans toute la France. Jarry est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, la température monte dans le studio Coluche. Ouf, je crois que je vais enlever mon sweat, moi.
Oui.
Regardez. Si vous me rajoutez des sons là où il n'y a pas de vanne, on s'en sort pas sur le son d'après.
Mais non, il a fait ça tout de suite.
Ah pardon, j'ai cru que c'était un de vos sons de tout à l'heure. Non, je m'y perds. Moi, je suis perdu parmi tous ces sons. Regardez, Eva, je le retire doucement, mon sweat, sensuellement.
Oh, ça me file la dalle.
Justement, ça tombe bien, notre expert gastronomique arrive pour vous sauver la mise une fois de plus, vous qui avez encore totalement oublié de penser à une recette pour ce soir. Et pourquoi pas un petit bœuf stroganoff? On n'y pense pas assez. On vous dévoile la recette juste après Allez Reste, Vianney et Boulevard Désert sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, une émission qui parle à votre cerveau, à vos zygomatiques et même à vos papilles. Et aujourd'hui, pour votre recette dernière minute, on part en Russie. Retrouvez le camarade Poulchov. Bonjour Olivier Pouls.
Nazdarovia,
vous savez ce que ça veut dire Nazdarovia?
Bah, vous allez me le dire, à votre santé, oui.
Ça m'étonne pas tout, oui, parce que vous êtes plus apéro qu'autre chose. Olivier, on sait votre ouverture d'esprit et vos mœurs à géométrie variable, ça devrait donc bien se passer avec Jarry. Un petit message codé à son attention avant de démarrer la recette.
Je butine telle une abeille, je vais d'un pot à l'autre, là, voyez-vous.
Je crois que le message est passé. Aujourd'hui, pour la première fois dans Délices in Extremis, les véganes l'attendaient avec impatience, Olivier, la recette du bœuf stroganoff.
Oui, et bœuf stroganoff, parce que je rends hommage au spectacle de Jarry, qui en parle d'ailleurs.
Exactement, j'ai une petite blague que les gens découvriront dans le sur le bœuf stroganoff.
Teaser.
Et alors, est-ce que vous le faites, le bœuf stroganoff?
Alors oui. Moi, je l'achète, mais j'ai un petit truc pour le réussir.
Ah, ben non, vous le faites pas, vous l'achetez alors.
Oui, je l'achète. Ah, voilà, oui. C'était la fin de la vanne.
C'était la fin de la vanne. Olivier Pouls a grillé la vanne et je l'ai vu venir parce que je la connaissais.
Mais c'est génial.
C'était un très beau moment de radio. Bravo, Olivier.
Et je vais venir dans vos restaurants, je vais vous pourrir la vie. Il n'aura pas de points, lui. Hein,
bon, mais lui, ça tombe bien, il est hors compétition. Il est belge, il a pas ses papiers. Dites-nous, Pouls.
C'est un plat inventé, effectivement, en Russie au XVIIIe siècle par un chef français, André Dupont, qui était le chef de la famille Stroganov, et pas Stroganov, hein, Stroganov. Donc c'est un plat de bœuf qui est mariné, sauté, mijoté. Voilà, on dira une discipline olympique, mais c'est de la cuisine. Alors il vous faut du bœuf, une partie tendre du bœuf, parce que c'est un bœuf qu'on ne va pas cuire très longtemps. Donc on va prendre par exemple du rump steak, qu'on va couper en petits morceaux. Il vous faut un oignon, qu'on va aussi couper en petits morceaux, un peu de paprika, du bouillon, de la moutarde et ce qu'on appelle de la crème aigre. Alors si vous n'avez pas de crème aigre, vous prenez la crème fraîche et vous rajoutez un peu de jus de citron dedans, ça va à peu près faire la blague. Donc en fait, on fait revenir votre oignon, on fait revenir le bœuf, on rajoute le paprika, on mouille avec le bouillon, une belle cuillère de moutarde.
En fait, quand toute une chronique est titre, c'est compliqué parce que normalement on réagit sur une expression, mais comment, là, toute
non,
la chronique...
C'est dingue, ouais. Comment vous faites pour me connaître aussi bien?
Cette chronique sur mesure.
On termine avec la crème aigre, on laisse cuire un petit peu et on sert.
Et c'est tout.
Mais oui, c'est hyper simple.
Et on laisse cuire combien de temps?
On laisse cuire un petit quart d'heure, pas beaucoup plus que ça, parce qu'il faut pas que le bœuf soit trop cuit.
Un petit quart d'heure,
20 minutes, pas plus.
Et avec quoi on sert quoi?
Avec du riz, par exemple.
Non, je pense qu'elle va penser au vin.
Non,
c'est ça qu'elle voulait dire. Elle s'en fout du riz. L'accord mais vin, c'est sa passion. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve chaque samedi dans la table des très bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Lui, il triomphe sur la scène avec cet accent séfarade, on ne sait pas d'où il sort. Nazdarovia. Il triomphe sur la scène de l'Européen à Paris avant d'entamer une grande tournée dans toute la France. Jarry passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
L'équipe est sauvage, touche à sa fin. Et Eva, j'ai une bonne...
C'est pas moi.
Il fait tellement bien Jarry que je crois que c'est un son de Jarry. Et je suis déstabilisé forcément. Vous permettez qu'on la refasse alors Jarry?
Oui.
Je refais mon lancement, ne criez pas. Alors, attention, je regarde ma petite feuille. L'équipe est sauvage, touche à sa fin. Et Eva, j'ai une bonne nouvelle pour vous.
On fait un apéro après.
Non, enfin si. Mais je voulais juste dire que dans quelques secondes maintenant, nous saurons qui a été désigné meilleur chroniqueur du jour. Ne manquez pas le grand final.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Mes tendres agneaux, leur hache a sonné. L'équipée sauvage s'achève. Nous venons de passer 2 heures délicieuses en compagnie de l'humoriste Jarry, actuellement sur la scène de l'Européen à Paris, avant une tournée dans toute la France. Jarry qui, je crois, a adoré notre émission.
Il fait non de la tête, mais il dit oui avec le...
Oui, il s'est mis à l'aise, il fait un peu chaud. Bref, qui a été élu chroniqueur du jour? Anne Le Gall, Alain Sirou, Axel de Tarlé ou Nicolas Caro? Vous votiez via Twitter et Varoc dévoilant d'abord le vote de nos auditeurs.
C'était très très serré aujourd'hui, mais à 31%, c'est pour l'horloge d'Alain Sirou.
C'est l'horloge, la grosse horloge d'Alain Sirou qui l'emporte. 2 points du public qui vont à Alain. Alain qui est bien positionné, hein. 19 points, vous gagnez 2 points et vous êtes 4e. En ce qui me concerne, car j'ai 1 point, je l'attribue aujourd'hui à... À Nicolas Caro pour les Chevaliers du Zodiac. Seront toujours à l'attaque, ça forcément avec un sujet pareil. Vous étiez sûr d'avoir mon point. Mais vous le savez ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur. Alors Jarry, il faut trancher. Mais n'oubliez pas que certains de nos chroniqueurs sont fragiles psychologiquement, comme Axel depuis l'émission avec Pef.
Axel de Tarlé, moi je vais pas mettre une bonne note parce que son nom...
Alors de grâce, tranchez mais sans vexer.
C'est Jarry, vrai que c'est...
qui selon vous mérite d'être élu chroniqueur
du jour ? J'ai beaucoup réfléchi, je me suis intéressé au fond de chacune des chroniques.
Tout à fait, vous avez été très attentif.
Voilà, j'ai regardé aussi l'esthétique du chroniqueur.
C'est important.
Parce que c'est important, un chroniqueur propre, voilà, ça donne envie de l'écouter. J'ai regardé aussi celui qui risque de mourir en premier, peut-être pour lui donner... j'ai regardé la qualité du poil.
Oui, et j'en vous avez suis... touché même, on peut le dire.
On peut dire, voilà, j'ai touché. Non, franchement, alors Nicolas, il y avait un vrai univers, il y a quelque chose.
J'ai pas
voilà.
Les trois points, quoi.
Mais je suis sûr que t'es le mec qui était toujours premier de classe, tu sais,
j'ai
voilà, qu'on a envie de taper.
Voilà.
C'est-à-dire que tu révises pas, mais t'as toujours les bonnes réponses. Donc non, Axel de Tarlé. Axel de Tarlé, voilà, c'est le bon pote, tu sais, c'est la troisième mi-temps, quoi. Tu vas dans les vestiaires.
Bon, j'ai pas le point.
Voilà. Alain Sirou, c'est le pote avec qui t'as envie de sortir, parce que tu sais que tu vas paraître intelligent, tu vois. Mais il va jamais jusqu'au bout. Tu vois, le naturisme, c'est pas son délire. Et du coup, j'ai voulu rendre hommage à celle quand même qui a pensé à la planète, à celle qui m'a touché cet après-midi en arrivant, parce qu'elle m'a regardé avec des yeux en me disant bonjour, j'arrive, et un petit bisou. Alors je vais dire Anne Le Gall. Le Gall, c'est le goût.
Le Gall, le goût. C'est la meilleure blague de Jarry qui n'est pas dans son spectacle.
Non.
C'est une blague qui n'est pas dans son spectacle, qui pourra peut-être être
parce que c'est la seule femme entourée de tous ces hommes.
C'est vrai.
Elle
c'est vrai. Aujourd'hui, voilà. Exceptionnellement.
Mais c'est pas pour la qualité du poil que vous m'avez élu.
Peut-être.
Et là, je viens de perdre connaissance.
Mesdames et messieurs, c'est donc Anne Le Gall qui remporte la 38e édition de L'Équipée Sauvage. Jarry, merci d'avoir joué le jeu durant ces
mille
deux
merci
heures.
Merci à vous, mais quelle émission de bonheur, franchement. On a besoin de ça.
Merci.
Mais les gens vous aiment.
Et les gens ont besoin de vous voir sur scène à l'Europe 1 pour passer aussi un moment foutraque et agréable. Merci également à ma dream team de la rédaction d'Europe 1, Eva Rock, Anne Le Gall, Nicolas Carreau, Axel de Tarlé et Alain Sirou. L'Équipée Sauvage revient demain 16h.
Europe 1, 16h-18h, L'Équipée Sauvage.
Mathieu Noël.